à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres.
2,53€ le paquet d'essuie-tout absorbant double épaisseur Netto.
Les enfants, on est sauvés.
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Netto.
Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate. Plus d'infos sur netto.fr.
Europe 1, il est 20h. De Maëlle Hassani. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Une deuxième personnalité de la France insoumise convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Après la candidate aux européennes et militante franco-palestinienne Rima Hassan, la chef des députés insoumis Mathilde Panot a annoncé qu'elle allait elle aussi être entendue par les enquêteurs dans le cadre d'une enquête ouverte après la publication d'un communiqué controversé sur les attaques du Hamas le 7 octobre. Selon Maître Sarah Salman, avocate au barreau de Paris, l'apologie du terrorisme ne sera pas si simple à prouver dans cette affaire.
Pour que cette infraction soit caractérisée, il faut vraiment la réunion de deux éléments, à savoir un élément matériel et un élément moral. Concernant l'élément matériel, il faut que l'apologie du terrorisme ait été faite publiquement. Là, ça pose absolument aucune difficulté, c'est public. En revanche, sur l'élément moral, c'est là où ça va être un petit peu plus ténu à mon sens. Il faut que l'auteur, donc de l'infraction, du communiqué de presse, et eu conscience de valoriser un acte terroriste. Là, Mathilde Panot expliquera si, selon elle, elle a voulu valoriser le terrorisme ou pas, même si pour nous, on peut bien sûr se poser la question, mais d'un point de vue juridique, ce n'est absolument pas certain. C'est probable, mais pas certain.
Maître Sarah Salman, avocate au barreau de Paris, interrogée pour Europe 1 par Alexis de la Fontaine. Et la chef des députés LFI, Mathilde Panot, voit dans sa convocation, je cite, « une instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques ». Le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon, fustige un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Kenji Girac va bien, il est tiré d'affaire. C'est ce qu'indique le manager du chanteur qui dit avoir pu échanger avec lui. L'artiste est toujours hospitalisé après sa blessure par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Les circonstances du tir restent très floues à l'heure actuelle. Les enquêteurs devraient entendre Kenji Girac dans les prochaines heures. Pour le moment, il maintient qu'il s'est blessé lui-même accidentellement en manipulant une arme achetée dans une brocante. Un adolescent de 14 ans, toujours en garde à vue à Toulouse. Hier, ce collégien reconnu handicapé en raison de problèmes psychologiques a agressé son professeur en plein cours. Il l'a plaqué contre le mur avant de le gifler à 4 reprises et puis de le menacer de mort. L'enseignant et le chef d'établissement ont porté plainte. Le suspect est exclu de son collège de manière temporaire. Il devrait être présenté à un juge des enfants demain. Au moins 15 migrants sont morts depuis le début de l'année en tentant de traverser la Manche. Le dernier drame en date a eu lieu tôt ce matin. 5 migrants, dont une fillette de 7 ans, ont perdu la vie au large de Vimereux dans le Pas-de-Calais. Cette ville a déjà connu un naufrage similaire. À la mi-janvier, 5 personnes avaient perdu la vie. Alors le maire, Jean-Luc Dubael, lance un appel à l'aide.
Sur ma commune, on a 10 morts à aujourd'hui. En janvier, j'avais tiré la sonnette d'alarme. J'avais poussé un coup de gueule, exactement. Et aujourd'hui, je suis encore plus en colère parce que aujourd'hui, on réitère la même chose. Sur Vimereux, aujourd'hui, c'est sur notre commune où il y a le plus de départs. Donc moi, j'alerte un petit peu les autorités. On a besoin de plus de services de police, gendarmerie, police nationale. Là, aujourd'hui, cette nuit, ils ont réussi à attraper 4 ou 5 passeurs. Mais c'est pas suffisant. Il y en a bien plus sur le territoire. Aujourd'hui, on est en vacances scolaires. Il y a les vacanciers qui sont là. C'est pas possible de continuer dans cette situation. 10 morts sur ma commune, c'est pas normal. Il y a quelque chose. Il faut réagir. Au niveau des frontières, on doit remettre, refiltrer au niveau des frontières. C'est pas possible de les laisser venir et puis les envoyer à la mort.
Jean-Luc Dubael, le maire de Vimereux dans le Pas-de-Calais, au micro européen de Lionel Gougelot. Et le Premier ministre britannique a réagi à ce nouveau drame de la migration entre la France et son pays. Il met en avant les bénéfices supposés de sa loi sur les expulsions vers le Rwanda, adoptée à Londres la nuit dernière et très controversée. Selon Rishi Sunak, le décès des 5 migrants nous rappelle pourquoi ce plan, censé décourager les traversées clandestines, est nécessaire. 75% des vols supprimés à l'aéroport d'Orly jeudi, 65% à Roissy-Charles de Gaulle. Ce sont les projections du président de la principale organisation regroupant les compagnies aériennes françaises, alors que le mouvement de grève des contrôleurs aériens s'annonce très suivi. Les chiffres exacts devraient être publiés dans la soirée par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Un deuxième préavis de grève a été déposé sur 3 jours en plein week-end de l'Ascension, les 9, 10 et 11 mai. Près de 1700 cas de dengue détectés en France métropolitaine depuis le début de l'année, contre seulement 130 vaccins il y a un an. Le directeur général de la santé lance l'alerte. Nous sommes face à une situation inédite, selon lui. Les personnes contaminées ont toutes voyagé dans des régions du monde où la dengue circule de manière endémique, comme les Antilles françaises. Et puis le Los Angeles FC va pouvoir compter sur un sacré duo de Français à partir de cet été. Olivier Giroud va rejoindre le club américain après l'Euro en Allemagne. Il retrouvera ainsi son ancien coéquipier avec l'équipe de France, le gardien Hugo Lloris. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus va s'engager pour un an et demi, plus une année en option, après ses adieux au Milan AC à la fin de la saison. Vous écoutez Europe 1, il est 20h05, place maintenant à La France bouge avec Elisabeth Assayag.
Merci Maëlle Hassani, tout de suite La France bouge qui recrute et qui emploie. A tout de suite.
Valorisons les entreprises responsables. Tout de suite La France bouge avec les trophées Generali PME Enterprise.
La France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans La France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Une heure d'initiatives positives, d'entrepreneurs, de dirigeants qui ont des envies, des idées et qui foncent. Au sommaire ce soir, l'emploi avec un grand nom de l'emploi en France, Manpower, l'intérim qui est souvent considéré comme une boussole du marché de l'emploi. Et plus largement, on va parler recrutement, comment recruter et garder des talents. Comment former au métier de la transition écologique? Les réponses ce soir avec vous, Benoît Derigny, directeur général de Manpower France. Bonsoir à vous.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France bouge. Autour de la table, bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
La difficulté de trouver le bon profil, le bon talent pour les entreprises aujourd'hui.
Oui, 87% des entreprises qui cherchent à recruter ne trouvent pas le bon profil aujourd'hui.
Dans cette France bouge dédiée à l'emploi, on va aller faire un tour du côté de l'armée avec cette question. Comment l'armée de terre se démène-t-elle pour recruter, pour garder ses talents, pour garder ses soldats? L'armée recrute, joie de vous recevoir, colonel Stanislas Rouquayrol, bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France bouge, vous êtes également adjoint au pôle recrutement jeunesse de l'armée de terre. Vous allez nous raconter ce que vous mettez en place pour recruter, garder vos talents. Et puis bonsoir Cécile Prioul.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France bouge, vous êtes l'autre talent de ce soir avec Saïra Encore mieux demain, après une longue période d'absence, un arrêt maladie, un accident de la vie. Votre start-up, Cécile, propose une offre de service pour aider le retour au travail. Cette offre, elle est pour les employeurs. Elle n'est pas pour les employés. Elle est surtout pour les entreprises. Comment peuvent-elles s'y prendre pour mieux accueillir des salariés après une longue période d'absence? On va en parler dans La France bouge. La France bouge sur Europe 1, c'est parti. Aux manettes de l'émission, Christophe Pierrot, c'est l'émission des audaces. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h.
La France bouge. Il fait tourner la boîte.
On va démarrer avec vous, Benoît Derigny. C'est vous qui faites tourner la boîte. C'est vous qui faites tourner l'émission ce soir. Enfin, l'une partie de l'émission. Vous êtes le directeur général de Manpower France. On est à 3 mois des JO de Paris. Encore des milliers d'offres d'emploi dans les secteurs d'activité liés aux Jeux qui cherchent toujours preneurs. Donc, gros plan ce soir sur le marché de l'intérim. Formidable vigie du marché de l'emploi avec l'un des géants de l'emploi en France, notamment de l'intérim avec Manpower. Donc, on va démarrer d'abord avec vous, Benoît. Vous allez nous expliquer, il y a un rituel dans La France bouge. Ce rituel, c'est une minute de pitch. Vous allez pitcher Manpower, sa principale mission en ce moment, en une minute. Êtes-vous prêt?
Allez, c'est parti.
Allez, top chrono, bon. C'est parti.
Manpower, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une start-up de 65 ans, créée en 1957 à Paris avec une première agence. Et aujourd'hui, on est 3000 et dont à peu près 80 000 salariés intérimaires partout en France. On a 600 agences, donc il y a toujours une agence à côté de chez vous, 70 cabinets de recrutement partout en France et une cinquantaine d'agences très spécialisées sur des métiers très pointus, la science, la logistique, la finance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On intervient dans tous les secteurs d'activité, la construction, l'industrie, l'agroalimentaire, les services, la finance, l'ensemble des métiers. Et on peut proposer, si vous êtes un candidat à la recherche d'un emploi, on peut proposer une mission d'intérim, mais aussi un CDD, un CDI ou des missions en alternance. Et si vous êtes une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Évidemment, vous trouvez la perle rare pour faire face à un nouveau défi, pour remplacer éventuellement un salarié absent ou pour constituer une équipe pour un nouveau projet. Voilà, une belle entreprise qui a 65 ans et qui est fière de ses 80 000 salariés partout en France tous les jours.
Merci de vous être prêté à l'exercice, Benoît Derigny, directeur général de Manpower France. 80 000 salariés.
80 000 salariés
partout
intérimaires.
Dans le monde ?
Non, alors juste en France.
Ah, juste en France, bah c'est déjà énorme. Et une entreprise qui a plus de 65 ans. On l'a bien compris, vous faites le lien entre les employés et les employeurs. Comment faire en sorte de recruter des talents en ce moment ? On sait que c'est le point majeur. Tous les secteurs d'activité sont touchés par cela.
Absolument.
Par ce besoin de
talents. On est sur une pénurie durable de talents, vraiment durable, pour des questions qu'on pourrait développer, mais essentiellement démographiques.
Donc on n'est plus assez nombreux.
Il y a une vieillissement de la population active, il y a le départ progressivement d'une génération qui est celle des baby-boomers, et puis l'arrivée de nouveaux des jeunes sur le marché du travail. Mais donc il y a une tension sur le marché du travail qui existait déjà avant le Covid et qui s'est véritablement accélérée depuis le Covid.
Clara, vous avez vu des chiffres, Clara Léger.
Oui, 87% des entreprises qui cherchent à recruter ne trouvent pas le bon profil, et parmi ces entreprises, un tiers au moins ont une offre d'emploi non pourvue depuis plus d'un an, donc c'est quand même énorme. Selon France Travail, 61% des recrutements ont été jugé difficile l'année dernière, alors que le gouvernement vise quand même le plein emploi d'ici à 2027.
Bon, on va y arriver. On est positif ce soir dans La France Bouge. Les enjeux ont changé aujourd'hui sur ce marché du travail. Il y a ceux qui partent à la retraite, qui font partie d'une génération qui a beaucoup donné pour leur entreprise, pour leur travail. Là arrive la génération Z.
Alors, il y a la génération, il y a un élément quantitatif, hein, c'est vraiment ce qu'on vient d'évoquer.
Donc, démographique.
Démographique, voilà. Et puis, il y a un élément qualitatif, c'est-à-dire que la relation au travail change. Voilà. Et particulièrement à cette sortie de Covid depuis 4 ans. C'est-à-dire que la relation à l'entreprise est différente et les attentes ne sont plus les mêmes. Et ce n'est pas juste un sujet de génération. Hein. Quand on a fait, nous, une enquête chez Manpower il y a 2 ans, et on avait 88% des répondants qui ont dit « Oui, ma relation au travail et la relation avec l'entreprise avec laquelle je travaille a changé. » Et j'ai des attentes qui sont nouvelles, voilà. Et les attentes, elles s'expriment alors particulièrement fortement sur la génération Z, mais pas simplement, hein. C'est des quêtes de sens, c'est-à-dire qu'est-ce que fait mon métier, à quoi il sert. C'est des souhaits d'évolution professionnelle, des souhaits de perspective, c'est aussi une cohérence entre ce que fait l'entreprise et mes propres valeurs. Et c'est ça qui est questionné aujourd'hui, évidemment dans un marché du travail qui est plus maintenant en faveur de ceux qui cherchent un emploi, que peut-être des employeurs. Donc du coup, ils ont
donc,
le choix.
La tendance, le rapport de force s'inverse. Est inversé depuis
donc,
le Covid. Et là, ça s'accentue.
D'autres critères que strictement au départ. Évidemment, il y a l'aspect rémunération, il y a le job lui-même, mais il y a autre chose que ça. Et c'est ça qui est questionné, et c'est ça qui demande à ce que chacune des entreprises, pour attirer et pour séduire et pour garder les talents, parce qu'on parlait tout à coup de pénurie d'emploi, mais je crois que le premier critère, c'est déjà de garder ses talents. Quand ils arrivent, il faut vous dire qu'ils partent, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut s'en occuper.
Il faut anticiper la lettre de démission. Ouais.
En fait, ce qu'on sait, nous, c'est qu'on a vérifié, c'est qu'à peu près 38% des salariés en poste ont un travail de formation individuelle, indépendamment de leur entreprise, par rapport à leurs compétences professionnelles.
Donc ils sont déjà
en train de réfléchir à la suite, et il ne faut pas attendre qu'ils viennent vous voir pour s'occuper
mais
de
là,
ça, parce que c'est trop tard.
Mais ils ont quel âge, ces talents qui partent, qui déposent leur lettre de démission? C'est quoi la moyenne d'âge?
Je ne pense pas qu'il y ait particulièrement de critères d'âge. Évidemment, plus la première partie de sa vie professionnelle, où les choix sont plus nombreux, c'est plus compliqué. Je crois que vous avez fait une émission sur les seniors. Donc là, ça rentre plus dans un sujet un peu plus complexe là-dessus, parce qu'il y a des choses à changer sur les perçus et sur les préjugés sur les seniors. Mais en tout cas, sur la première partie de vie professionnelle, il y a du choix. Et les jeunes, en particulier, ont envie de cumuler les expériences et sont assez exigeants, et peut-être à juste titre d'ailleurs, sur ce que propose l'entreprise, au-delà du simple contrat de travail ou au-delà
mais
du simple
vous dites
job.
Vous dites, Benoît de Rigny, je rappelle que vous êtes le patron de Manpower France ce soir sur Europe 1, vous dites au-delà du contrat de travail. Ça veut dire que le contrat de travail n'est plus une priorité? On a quand même besoin de manger, on a besoin de se loger.
Bien sûr, c'est le premier point, évidemment. Hein, mais je crois que... Et alors nous, évidemment, c'est notre quotidien. Hein. Dans le travail, il y a plus que ça. Je veux dire, on travaille tous pour remplir nos frigos, mais c'est pas que ça. On travaille
aussi pour se développer
professionnellement. Et on travaille aussi parce que ça permet de créer des liens sociaux. Voilà. Et ce qui est attendu, et en particulier de la génération Z dont on parlait à l'instant,
donc cette génération qui
cohérence.
Est née, pour les auditeurs d'Europe 1, elle est née en 1995, en gros,
c'est
cette génération.
95. Et il faut savoir que c'est 30% de la population active en 2030.
Donc elle arrive là maintenant sur le marché du travail.
Donc pour ceux de ma génération, nous ne serons bientôt plus majoritaires. Donc il faut, c'est pas à eux de s'adapter, c'est à nous de nous adapter. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête.
Et quand vous dites qu'il faut nous adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en avant le sens du métier, les valeurs de l'entreprise, en troisième plan, le CDI et le salaire?
Ça reste un socle incontournable, mais quand on a le choix, dans l'arbitrage que va faire un candidat, à conditions équivalentes, il va être très attentif à l'authenticité, à la sincérité, au sens du métier, à la sincérité de son engagement sociétal, C'est des sujets qui sont extrêmement importants, la diversité, l'inclusion, l'engagement pour le climat, et la façon dont l'entreprise le fait de manière sincère, c'est-à-dire entre des mots et des actes. Mmh. Et ça, ça va être des motifs d'arbitrage entre deux propositions assez équivalentes.
Vous êtes une formidable vigie, Benoît Derigny. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Manpower France. Ce soir sur Europe 1, on parle emploi. Une très belle vigie sur ce qui se passe sur ce marché de l'emploi. Aujourd'hui, vous, c'est le travail intérimaire. Ces intérimaires viennent, eux aussi, ils recherchent une qualité de vie au travail.
Alors, oui,
est-ce que c'est un choix d'être intérimaire?
Alors, absolument. Alors, d'abord, on ne fait pas que du travail temporaire.
Oui, on vous connaît surtout là-dessus.
On fait 20 000 recrutements en CDD, CDI par an.
D'accord. Donc, voilà, c'est important de le souligner.
Tout à l'heure, j'évoquais qu'on a 70 cabinets de recrutement. On a 300 personnes en France qui ne font que du CDD ou du CDI pour des demandes de nos clients.
D'accord.
Donc, en fait, en fonction des attentes du candidat et des options qu'on a de la part de nos clients, on va proposer plusieurs formes de contrats. Pour revenir au travail temporaire, en fait, ce conseil d'expérience, un tiers des gens qui font du travail temporaire, c'est un choix. C'est un choix parce qu'ils sont sur des métiers recherchés et qu'ils préfèrent changer, choisir, discuter de leur taux horaire, choisir quelque chose qui est en proximité, choisir l'entreprise. Un tiers, ça va être une séquence à un moment dans leur vie. C'est-à-dire que j'ai une rupture et je souhaite diversifier mes expériences. Et le dernier tiers, c'est des gens qui sont plutôt avec des aptitudes que des compétences, et ils utilisent le travail temporaire comme vecteur d'insertion professionnelle.
Et quand vous dites que ce sont des métiers recherchés, quels sont les métiers recherchés que l'on trouve dans le travail temporaire, Benoît Derigny?
Écoutez, alors on se parle, là on a, si vous allez sur notre site ou notre appli, hein, il y a 25 000 offres en fait, qui sont à pourvoir. Vous en avez 4 000 dans l'aéronautique, 3 000 dans l'industrie automobile, vous en avez, je crois, 3 500 dans la construction, 1 500 agents dans la maintenance. Donc, vous trouvez, en fait, on a, nous, des besoins de la part de nos clients, tous les métiers qualifiés. Mais tous les métiers qualifiés. Alors, c'était déjà vrai avant le Covid, mais c'est encore plus vrai maintenant. Donc, dans n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment... Et quand je dis qualifié, par exemple, dans la construction, c'est des électriciens, des maçons, des plombiers, enfin, tous les métiers du gros œuvre, du second œuvre. Donc, c'est des métiers à compétences techniques sur lesquels il y a une vraie pénurie et une pénurie durable de talents.
Pénurie durable de talents, Clara Léger, il y a d'autres secteurs qui peinent à recruter. Là, on était sur tout ce qui était aéronautique, bâtiment, automobile, mais il y a aussi les métiers liés au service à la personne.
Oui, c'est ça. Depuis 2018, encore plus, depuis la crise du Covid, évidemment, le taux de difficulté à recruter augmente pour les métiers, entre autres, d'infirmiers, infirmières, de puéricultrices, d'employés de libre-service aussi dans les grandes surfaces et d'agents hospitaliers.
C'est donc, ça veut dire que c'est global? C'est pas uniquement dans des métiers, les 3-4 que vous venez de citer.
Il va falloir apprendre à vivre avec.
Il va falloir apprendre à vivre.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le premier critère, c'est garder ses talents. Vraiment.
Les garder, voilà. Mais il faut aussi les former parce que.
Ça fait partie de la façon de les garder.
Ça fait partie de la façon de les garder. C'est important parce qu'il faut passer aussi par ces métiers divers. On les appelle, je crois, les colverts, c'est ça, les nouveaux métiers du.
C'est l'appellation qu'on commence à utiliser.
Que vous commencez
de plus en plus,
à utiliser, d'ailleurs. Manpower en a fait. Vous avez lancé une étude là-dessus, ouais. Il y a quelques jours, sur ces métiers, ces colverts que l'on recherche. Est-ce que ce sont des métiers qui sont en train de se transformer? C'est-à-dire que certains commencent à exister, d'autres n'existent pas encore. Donc ces talents, vous les avez. Est-ce que ça signifie qu'il va falloir les former vers ces métiers et ne pas les laisser partir?
Absolument, Elisabeth. C'est-à-dire, en fait, on a coutume de dire, moi je dis c'est les 3 V. Voilà.
C'est quoi les 3 V?
Alors, je vous explique.
Bah, oui, ouais.
les métiers verts, ça c'est vraiment des métiers nouveaux. Par exemple, je suis ingénieur en éco-conception où je travaille sur des sujets de décarbonation, par exemple. Donc, c'est des métiers nouveaux qui sont liés vraiment au défi de la transition écologique et c'est certainement le défi de fond de ce siècle. Après, on a les métiers verdissants.
Des défis de fond parce que c'est une priorité pour l'ensemble des entreprises. Je rappelle
absolument.
Que vous, Manpower, vous avez aussi beaucoup d'entreprises clientes, hein, puisque vous êtes l'intermédiaire. Ils recherchent ces métiers verts,
alors,
c'est l'enjeu.
Certaines sont déjà là-dedans, d'autres ne sont pas encore, ont pas encore pris conscience de ça. Ça dépend en fait de leur avancée sur la transition écologique et la transition climatique et énergétique. Les entreprises les plus engagées là-dessus sont déjà là-dedans. Et juste pour terminer, mes 3 V.
Mais oui, alors les 3 V.
Les verdissants, c'est des métiers qui existent sur lesquels il y aura des compétences nouvelles à ajouter. Et puis le dernier V, c'est les métiers vulnérables. Il y en a moins, beaucoup moins. C'est des métiers qui vont être sans doute en diminution. Voilà.
C'est quoi ces métiers en diminution?
Vous êtes dans la réparation et l'entretien automobile thermique. c'est forcément, compte tenu des échéances réglementaires qui sont bien devant sûr. Nous, des métiers sur lesquels il va falloir se transformer.
Bah donc la réponse, vous c'est allez formation. Les former absolument. Vers l'hydrogène, vers l'électrique.
Absolument. La réponse,
et
c'est
ça,
formation.
Ça,
mais
ça
s'anticipe.
Mais c'est en ce moment.
Voilà. Et donc, ça dépend en fait, du niveau d'engagement de chacune et chacun de nos clients. Et nous, notre préoccupation, c'est évidemment de les alerter et de les accompagner là-dessus. En fait, souvent, ils pensent, quand ils pensent transition écologique, ils pensent d'abord, qu'est-ce que je vais trouver comme technologie de remplacement pour être dans un monde moins carboné? Ça, ok. Ensuite, ils disent comment je vais m'offrir ça? Donc, il y a un sujet de finance. Et puis, il y a un angle mort. Et nous, on leur dit, ok, mais et les compétences, vous les avez? Ah, mais, effectivement, on n'y avait pas pensé. Comment vous pouvez nous aider?
On estime à combien, Benoît Derini, combien d'emplois prévus d'ici 2030 pour lesquels la transformation de ces compétences et ces formations doivent s'accélérer?
Alors, il y a plusieurs études là-dessus. Le chiffre qui revient souvent, c'est 5 millions. Mais quand je dis 5 millions, ça concerne aussi bien les métiers verts que les verdissants et un peu les vulnérables. Le plus gros sujet, c'est les métiers verdissants, c'est-à-dire ceux qui vont devoir évoluer avec des compétences additionnelles. La partie métier dit verte, c'est peut-être la plus spectaculaire, mais ce n'est pas forcément les plus nombreux.
Ce n'est pas les plus nombreux. Pour recruter ces talents, il faut passer par l'entretien d'embauche. Est-ce que cet entretien d'embauche a changé aussi au fil du temps, Benoît Derini? Est-ce qu'en 2024, l'entretien d'embauche est le même que celui qu'on passait il y a 20 ans?
Pour moi, pas du tout.
Il ressemble à quoi?
C'est un véritable échange. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui se fait ou qui ne se fait pas.
Moi, ça va jusqu'à le mot, vous utilisez le terme de rencontre.
Oui, parce que je pense qu'il y a un projet derrière professionnel pour un candidat et que compte tenu de ce qu'on vient de dire, ils sont exigeants et ils posent des questions et ils ont raison. Donc, ça reste à la fois une séquence toujours aussi importante, même si on est dans un monde très digital, le face-à-face et l'entretien restent importants, mais la nature de l'échange et les questions des candidats aujourd'hui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus larges, et ils osent des questions que peut-être il y a 20 ans ils n'auraient pas osé.
Clara Léger,
qu'est-ce qu'il faut mettre en avant justement maintenant quand on passe un entretien d'embauche ou quand on écrit une lettre de motivation? Parce que moi ça a toujours été un truc qui me paraît complètement désuet, la lettre de motivation.
Si, oui.
Alors, la lettre de motivation, elle perd un peu en usage. Hein. Ce qui, en revanche, ne change pas, c'est le CV. Ça reste un des fondamentaux, pas plus d'une page. Ce que je crois très important dans un entretien, et même avant l'entretien, c'est de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a fait, ce qu'on ne veut plus faire. C'est-à-dire être assez au clair sur son projet professionnel.
On est très proactif, on ne vient pas là juste pour savoir ce que le potentiel recruteur a à me proposer.
Rencontre, c'est-à-dire que dans l'entretien, je vais aussi poser des questions au recruteur pour voir si dans ce qu'il a à proposer, ça correspond à mon projet professionnel. Et même si ça ne matche pas complètement, c'est important pour un recruteur d'avoir en face de lui un candidat qui est assez au clair sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on n'aime pas faire telle chose qu'on ne sera pas retenu comme candidature. Au contraire, on est assez clair sur ce qu'on veut et sur ce qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps. En fait.
Est-ce que vous regardez attentivement ces fameux soft skills, c'est-à-dire l'adaptabilité au changement, les questions du sens de l'entreprise? Est-ce que tout ça, vous faites attention?
Absolument, vous avez raison, c'est un point important parce que comme on évoquait une pénurie durable de talents, il faut oser des profils différents. Et oser des profils différents, ça veut dire moins réfléchir en termes de compétences classiques traditionnelles, mais oser des soft skills, c'est-à-dire des compétences relationnelles, des aisances, ouais. Des aptitudes et qu'on n'aurait pas forcément rapproché du poste initialement.
C'est de là que vient la rencontre dont vous parlez, voilà. Benoît
Derini. Et ça, c'est quand même beaucoup l'entretien sur lequel ça se... On peut les exprimer et les mettre en évidence.
Des entretiens d'embauche qui nous marquent tous, hein. C'est ce qu'a constaté Antoine Fenech pour Europe 1, écoutez.
S'il y a bien l'un des entretiens d'embauche qui m'a marqué, c'était celui quand j'ai décroché ma première alternance et je suis tombé par le plus grand des hasards devant mon recruteur qui était en fait l'un des meilleurs amis de mon père. Et du coup, il a été mon maître d'apprentissage et ça s'était super bien passé.
L'entretien d'embauche qui m'a le plus marqué, c'était l'entretien d'embauche pour mon stage de fin d'études. L'entreprise nous avait convoqué tous les candidats ensemble et ils nous ont fait faire une épreuve par groupe où du coup on devait défendre un cas d'étude tous ensemble et c'était plutôt très intéressant parce qu'on voulait directement voir les dynamiques au sein des groupes qui nous avaient été assignés.
Une expérience qui m'a marqué, j'avais passé mon CV à une amie qui travaillait dans un fast-food, donc j'avais passé un entretien avec le patron. Ça ne tournait pas du tout autour du travail, de l'emploi, des tâches, etc. Et en fait, c'était purement des questions sur moi, ma personnalité, ma religion, enfin des questions très très intimes.
J'ai passé mes entretiens d'embauche en plein pendant le Covid, donc lors des périodes de confinement. Donc c'est vrai que c'était particulier puisqu'on n'avait pas, je pouvais pas visiter les locaux d'entreprise. Il n'y avait pas tout le feeling qui peut se faire avec l'employeur. C'était beaucoup par téléphone ou par Teams, avec la visio notamment, c'était un peu improbable.
Vous, il y a des entretiens d'embauche qui vous ont marqué, Benoît Derini? Je rappelle que vous êtes le patron de Manpower France ce soir sur Europe 1.
Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Alors vous ne le savez pas forcément, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé 10 ans chez Manpower en début de ma carrière, puis je suis parti 15 ans, et je suis revenu, parce qu'il y a 3 ans, comme directeur général. Voilà. Alors, comme quoi, il y a des hasards de la vie, et qu'on laisse toujours une trace.
Hasards,
et
parce faut que vous jamais... avez laissé des bonnes traces.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut laisser des traces. Mais il y a une expérience personnelle. Quand j'ai changé de job, donc il y a longtemps, et que j'ai quitté Manpower, j'avais d'abord refusé. Et donc, j'avais fait tout le processus, et j'avais fini par dire non. Et un mois plus tard, la même personne m'a rappelé en me disant « Vous êtes sûr, vous n'avez pas fait une erreur ?» Et je crois qu'il avait raison, parce que j'ai fait le saut, je suis parti.
C'était voilà. Un chasseur de tête ou c'était quelqu'un
non,
de Manpower ?
C'était le président de l'entreprise à l'époque. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher. C'est-à-dire que lui, il s'est dit « Il a refusé il y a un mois, je vais quand même tenter de le rappeler un mois plus tard. »
Il était sûr de son choix.
Et je ne sais pas, il a trouvé les mots pour me convaincre, ou il est tombé dans un moment où j'étais mûr, peut-être, pour faire un saut.
Et vous, quand il vous a rappelé, vous êtes dit « Mais... » Tout compte fait,
et je me suis
pas.
Dit, il y a un alignement de planètes, là, c'est pas possible.
Voilà. Il faut écouter les signes. Allez-vous rester avec nous, Benoît Derini, directeur général de Manpower France. On va aller faire un petit tour du côté de l'armée, mais oui, parce que l'armée recrute, et c'est important de savoir comment elle recrute, quelles sont les possibilités de carrière au sein de l'armée. On va retrouver dans un instant colonel Stanislas Rouquayrol. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Nous sommes recordman d'Europe en matière de prélèvements obligatoires. Est-ce qu'on peut continuer sur une pente à la grecque ou est-ce qu'on redresse ce pays ?
On tient, on résiste et on assume un principe de laïcité.
Il y avait beaucoup plus d'insouciance, en tout cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une peur généralisée.
Si vous êtes condamné à moins de 6 mois de prison, vous n'allez pas en prison. Attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas si grave que ça.
Je vous jure que le temps que je fasse mon lacet, que je relève la tête, j'ai vu le couteau se planter.
On ne peut pas continuer comme ça à exposer nos enfants, la jeunesse, à des formes de violence inouïe.
Quand l'enfant, c'est pas un droit. Quand on le fait, c'est qu'on le veut et qu'on doit l'assumer.
Europe 1. Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
C'est le retour de La France bouge avec les trophées Generali PME Enterprise.
Europe 1, La France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez La France bouge. Ce soir, on parle emploi jusqu'à 21h. Et notez que dès lundi, La France bouge aura lieu à partir de 21h jusqu'à 22h. Changement d'horaire, vous le notez. Ce soir, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est l'émission des entrepreneurs, des belles entreprises françaises comme Manpower France avec Benoît Derini. Vous êtes le directeur général de Manpower France. L'emploi, c'est aussi le recrutement. Et coup de projecteur ce soir sur l'engagement. L'engagement, parce que être à l'armée, c'est un engagement, notamment dans l'armée professionnelle. Entre 2000 et 2500 militaires pourraient manquer cette année par rapport à l'objectif fixé, c'est ça, colonel Stanislas Rouquayrol ?
Oui, bonsoir. Effectivement, nous n'avons pas été totalement sur la cible pour cette année 2023, pour les raisons énoncées tout à l'heure aussi par Benoît, hein, l'effet Covid, et aujourd'hui un peu tous ces comportements nouveaux pour lesquels l'armée s'adapte. Et
donc, l'armée s'adapte aussi.
Bien sûr.
Ça aussi, c'est un changement de société.
Bien sûr, l'armée s'adapte, puisque tous les ans, nous devons recruter 16 000 jeunes, hommes et femmes, sur tous les postes, sur un nombre de métiers très important, plus de 117 métiers différents, et de tout niveau, du jeune sans diplôme jusqu'au bac plus 5, plus 7, issu des grandes écoles, pour pouvoir armer tous ces postes dont nous avons besoin dans notre armée.
Vous avez besoin de postes, Stanislas Rouquayrol, vous êtes colonel, vous êtes également adjoint au pôle recrutement jeunesse de l'armée de terre. Ça fait 8 mois que vous occupez cette fonction liée au recrutement. On va revenir un petit peu sur votre carrière, puisque vous avez d'abord démarré par un parcours d'officier, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Vous avez fait Saint-Cyr, l'école militaire de Saint-Cyr ?
Oui, tout à fait. Donc, un parcours classique dans les armées, un parcours opérationnel dans des régiments avec un certain nombre de projections à l'étranger, du commandement d'hommes et de femmes au sein de régiments. Et à l'issue de ces 15 années, j'ai pu passer de l'école de guerre et ensuite faire une formation spécialisée dans les ressources humaines.
Mais vous parlez de ces 15 années, vous avez été sur des missions, vous avez fait des opérations militaires, c'est important aussi.
Oui, tout à fait, oui, de nombreuses missions marquantes. Qui font tout le sel justement de ce métier. J'y suis allé en Bosnie, au Kosovo, en Côte d'Ivoire, au Liban. où j'ai pu donc mener des missions de 4 à 6 mois.
Des missions opérationnelles. Et puis, c'est au retour de vos missions à l'étranger que vous avez repris vos études. C'est courant dans l'armée de retourner sur les bancs de l'école quand on a passé 15 ans sur des théâtres de guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui est une évidence ou c'est quelque chose que vous aviez mûri?
Alors, ce n'est pas forcément une évidence parce qu'on n'y pense pas quand on s'engage. Quand on s'engage, on rêve d'aventure, on rêve d'action.
Tout et vous, ça a toujours été votre rêve, hein,
tout à fait,
de servir votre pays.
Exactement.
Et d'être dans l'armée.
Tout à fait. Et donc, on rêve d'abord de cela. Et au fil des années, l'armée nous propose beaucoup de formations. Et à cette époque de la vie, donc vers 35 ans, l'armée offre un certain nombre de postes pour spécialiser quelques officiers dans tous les domaines, de manière à pouvoir justement être encore plus efficace pour faire fonctionner notre institution riche et variée.
Donc, parmi ces formations, on vous propose une formation ressources humaines. Vous intégrez la prestigieuse école, le SCP, Paris.
Oui, tout à fait. Hein? Donc, j'ai pu faire un master spécialisé en management des hommes et des organisations, donc quelque chose qui me parlait bien, pendant un an.
Mais quand on est en mission, on dirige des hommes déjà?
Oui, bien sûr, on commande des hommes.
On commande des organisations, même si c'est sur des missions militaires, mais vous êtes déjà dans la direction d'hommes, d'humains.
Oui, tout à fait, c'est ce qui fait d'ailleurs tout le sel de ce métier, donc c'est un commandement humain. On n'a pas forcément des mots à poser dessus, mais l'intérêt de ces formations, c'est justement après de pouvoir passer de l'autre côté de la barrière et de recruter et de pouvoir être d'autant plus légitime pour comprendre les attentes de cette jeunesse et pouvoir aussi mieux tracer des parcours RH, une lisibilité, des formations tout au long,
de cette carrière. Alors, colonel Stanislas Rouquayrol, vous êtes ce soir avec nous sur Europe 1. Ça fait 8 mois que vous êtes au pôle recrutement jeunesse. C'est quoi votre mission? Vous aussi, vous allez pitcher pendant une minute. Est-ce que vous êtes prêt?
Alors, je suis prêt.
Allez, on vous écoute. C'est parti. Bon.
L'armée de terre, c'est 120 000, aujourd'hui 120 000 jeunes, hommes et femmes professionnels. Et donc, nous devons tous les ans recruter 16 000 jeunes de tout diplôme sur 117 métiers. Pour cela, nous avons une organisation qui est décentralisée, avec dans chaque département des CIRFA, des centres d'information et de recrutement des forces armées, dans lesquels tout jeune peut venir prendre rendez-vous et donc suivre un parcours de recrutement qui va durer de 2 à 4, voire 6 mois, selon les spécialités, pour ensuite pouvoir trouver le poste qui lui convient et s'engager. Et donc pour cela, nous avons un site du marketing très développé, avec un site vitrine s'engager.fr, sur lequel tous les jeunes peuvent venir trouver les informations, contacter des ambassadeurs, donc des gens qui sont déjà dans les armées, dans notre armée de terre, et qui peuvent répondre à toutes ces questions. Et donc on a tout ce parcours, toute cette rencontre qui a été tout à l'heure soulignée, que nous faisons pour les amener à ce choix de s'engager.
Merci de vous être prêt à l'exercice, colonel Stanislas Rouquayrol, adjoint au pôle recrutement jeunesse de l'armée de terre. Vous manquez de combien de personnes en ce moment?
On manque d'environ 2500 personnes aujourd'hui.
2500 personnes, comment vous l'expliquez? Ces métiers ne sont plus attractifs? On n'a plus envie, quand on est jeune, de s'engager, de servir son pays?
Alors je ne crois pas. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, malgré effectivement quelques évolutions, a toujours soif de valeur, a soif d'engagement, d'ailleurs ça a été rappelé. Et donc nous ne manquons pas de jeunes qui veulent s'engager pour être militaires tel qu'on se le représente. Dans l'imaginaire. Donc, nous n'avons pas de difficulté pour recruter des fantassins, des gens qui vont servir dans les chars, donc dans l'artillerie.
Là-dessus, pas de difficulté.
Les vraies difficultés que nous avons, ce sont les domaines évoqués aussi tout à l'heure par Benoît, donc les métiers du soutien, les métiers de la maintenance, sur lesquels nous avons effectivement un certain nombre d'enjeux pour attirer cette jeunesse.
Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui ne sont pas très valorisés. C'est quoi métier de la maintenance quand on est à l'armée? Ça ressemble à quoi?
C'est un mécanicien qui va travailler sur des chars, qui va travailler sur des véhicules divers et variés, sur des hélicoptères. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que l'armée se diversifie et s'adapte, parce que nous avons créé donc des écoles, donc un lycée technique, le MPT à Bourges, l'école militaire préparatoire technique, qui est un lycée qui forme les jeunes à ces métiers. Donc c'est environ 200 jeunes tous les ans. Ces jeunes sont formés et payés, donc nourris, logés par l'armée de terre, et ensuite peuvent donc prendre un contrat dans notre institution.
Il existe depuis combien de temps, ce lycée?
Ce lycée existe depuis 3 ans maintenant.
Depuis 3 ans. Depuis et 3 les ans promotions, vous avez pu les remplir?
Les promotions sont remplies, nous avons beaucoup de candidats, beaucoup de jeunes sont intéressés.
C'est quoi, c'est des décrocheurs qui sont plus au lit dans le cursus classique? Ils viennent d'où? Parce que comme c'est un lycée, vous les prenez après la 3e?
Nous les prenons après la 3e. Ce sont des jeunes qui ont entendu parler de cette école souvent par leurs parents, et qui ont à la fois envie d'un cadre pour suivre des études, et qui savent qu'à la fin, à la clé, il y a ce métier qui sera proposé.
Donc voilà. Ça, c'est par exemple pour des métiers autour de la maintenance. Pour les métiers comme celui que vous avez pu faire sur des missions, là, vous n'avez pas de problème de recrutement.
Là, nous n'avons pas de problème. Nous avons suffisamment de jeunes qui ont envie de servir dans notre armée. Et nous avons aussi notamment d'autres adaptations comme le cyber. Nous avons créé un BTS cyber.
Pour la cybersécurité.
Voilà, pour la cybersécurité. Là aussi, des domaines qui sont sous tension, qui sont compliqués à armer.
Et partout, pas qu'à l'armée.
Et partout. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis en place cette formation de manière à pouvoir accompagner ces jeunes et ensuite les garder dans notre institution.
Benoît Derigny, vous êtes le directeur général de Manpower France. Je vous vois écouter très attentivement le colonel Stanislas Rouquayrols. Votre point de vue, vous travaillez avec l'armée chez Manpower?
Alors, on travaille avec l'armée, oui, on n'a pas eu le temps d'échanger avec le colonel. On recrute pour la Marine nationale, on vous aide donc chaque année avec un programme de recrutement. Et puis, on ne l'a peut-être pas évoqué, mais on travaille aussi, puisque à la fin de la carrière professionnelle dans l'armée, au bout d'un certain nombre d'années, il y a aussi la nécessité d'une deuxième vie professionnelle.
De se reconvertir professionnellement.
Et là, on travaille beaucoup aussi avec vous pour essayer de rebondir et trouver une deuxième carrière, parce que l'on sait aussi que les métiers de l'armée, au sens large, sont extrêmement formateurs et qu'il y a à la fois les compétences techniques et aussi les soft skills.
Alors, c'est quoi les qualités, quand on est passé par l'armée, que vous recherchez chez Manpower? C'est quoi, quand
alors,
vous
sur les métiers techniques, on sait formations. Que c'est une très bonne école de formation sur plein de sujets. Donc
quoi, nous, les métiers techniques, vous pensez à quel métier?
Là, on parlait par exemple de l'entretien de la maintenance sur les chars. Par exemple, moi je connais un tout petit peu plus la marine, donc il y a énormément aussi de métiers techniques, je crois, dans la marine, et c'est des métiers qui sont évidemment transférables dans le privé, sur toute une série de
donc,
secteurs.
Donc, transfert avec de compétences armée-privé.
Absolument. Mm-hmm. Et puis, on sait que quand on a passé un certain nombre d'années dans l'armée, on a aussi
on sera un bon
des
salarié.
Qualités individuelles qui sont appréciées dans le monde de l'entreprise.
Lesquelles?
Capacité d'engagement, une capacité de savoir travailler en équipe, mais là je pense que Colas serait bien plus compétent
c'est
que moi.
C'est ça les qualités principales qui ressortent.
D'accepter le groupe et de travailler en équipe, d'avoir le sens peut-être du résultat,
effectivement, tous ces éléments nous parlent bien sûr, puisque nous avons des valeurs qui sont très fortes au sein donc, de notre armée de terre, le mérite, l'altruisme, la fraternité, le dépassement, l'exigence. Donc toutes ces valeurs que nous cultivons au quotidien, effectivement après, ressortent dans les caractères des gens et attirent effectivement de nombreuses sociétés privées pour recruter. Et cela fait partie un peu de notre offre, c'est-à-dire que nous accompagnons les jeunes chez nous. Quand un jeune s'engage, il est formé tout au long de sa carrière, il sera accompagné jusqu'à sa reconversion. Et donc, nous l'aidons jusqu'au bout avant de.
Et ça, c'est un engagement que vous prenez dès le démarrage.
C'est un engagement que nous prenons. Au bout de 5 ans, un jeune, au bout de 5 ans, après son premier contrat, peut bénéficier d'une aide à la reconversion.
C'est un plan de recrutement qui concerne aussi les femmes.
Bien sûr.
Hein, ça, c'est important. Vous essayez toujours d'avoir, j'imagine, au maximum la parité, hommes-femmes. Là aussi, c'est plus difficile de recruter ou les femmes, ce n'est plus un sujet pour recruter dans l'armée actuellement.
Alors, ce n'est pas un sujet. Tous les postes sont ouverts aux femmes. Mmh. Donc, il n'y a aucune difficulté.
100% des postes de l'armée de terre.
100% des postes de l'armée de terre sont ouverts aux femmes. Donc, il n'y a aucune difficulté pour venir chez nous. Aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de postes peuvent susciter quelques réticences, et notamment pour des critères physiques, où un certain nombre de jeunes filles hésitent. Mais nous, en tout cas, nous ouvrons, et c'est vraiment un appel que je fais, tous les postes, il n'y a aucune difficulté pour qu'une jeune fille rejoigne l'armée de terre.
Ce serait quoi les postes spécifiques où on pense qu'il y a un peu plus de difficultés?
Les postes de fantassins, par exemple, quand vous devez porter un équipement de 30-40 kilos sur des longues marches, donc tous ces éléments physiques peuvent rebuter certaines jeunes filles qui sont peut-être parfois moins résistantes que les garçons. Et donc, naturellement, ces jeunes femmes, au bout d'un certain temps, après, peuvent être réorientées. Donc, c'est aussi un élément clé, c'est que lorsque l'on s'engage dans l'armée de terre, vous pouvez changer de poste et de
donc,
carrière.
Donc, mobilité,
j'en suis un exemple.
Vous en êtes
j'étais
un
d'abord
exemple.
Cavalier, maintenant je travaille dans les ressources humaines, mais un jeune peut s'engager comme fantassin, quelques années plus tard, devenir travailler dans les RH, travailler dans des bureaux, dans la partie finance, etc., etc. Donc, si vous voulez, on s'adapte aussi à nos compétences, à nos talents. Et
c'est pas
et
venir
physique.
Servir et au bout de 15 ans, 20 ans, merci, au revoir. Au contraire,
non,
on voit qu'il y a un accompagnement du début à la fin.
Vous avez un accompagnement du début à la fin où nous donnons de la lisibilité à ces jeunes pour se projeter, justement, parce que nous avons besoin de conserver ces jeunes un certain nombre d'années. C'est une armée jeune, d'où les flux importants. Mais
vous allez les chercher
quand même.
Où, quand vous dites c'est une armée jeune? Est-ce que ça signifie que ça concerne tous les milieux sociaux, toutes les régions?
Ça concerne tous les milieux sociaux et toutes les régions, bien sûr, puisque cette armée, elle est à l'image du pays, d'une part. Et d'autre part, nous avons besoin de tous les métiers, comme je vous disais, du bac plus 5 et un jeune sans diplôme peut aussi s'engager. Donc nous allons agir dans les lycées professionnels, dans les grandes écoles, mais aussi dans les quartiers de vie prioritaires, dans les banlieues, pour justement aussi attirer le maximum de jeunes qui, effectivement, peuvent être interpellés par cette notion de sens, ce besoin d'aventure que tout jeune peut légitimement rechercher, et cette deuxième famille que nous leur offrons.
Clara Léger, quelle est la durée d'engagement quand on décide de rejoindre l'armée de terre ?
Alors, la durée souhaitée, en tout cas, d'engagement pour nous est jusqu'à 6-7 ans, en moyenne, pour que le système fonctionne bien. Mais un jeune aujourd'hui a beaucoup d'offres variées. L'engagement classique, c'est un engagement de 5 ans. Maintenant, nous avons développé aussi d'autres
ils se sont vraiment adaptés, hein, on l'entend.
Exactement, et je rebondis sur les Jeux Olympiques, où là, nous avons mis en place les volontaires découvertes armées de terre. Donc, c'est un dispositif qui s'est créé spécialement pour les JO, et qui est un engagement de 4 mois. Donc là, nous allons tester pour les JO 100 jeunes sur ce dispositif, puisque nous avons effectivement bien compris que les jeunes aujourd'hui ont besoin de temps court pour ensuite décider en toute connaissance de cause.
S'engager ou pas. Mais ce sont des militaires alors pendant 4 mois ?
Bien sûr, ce sont des militaires.
Du jour au lendemain, ils deviennent militaires ?
Alors du jour au lendemain, non. Vous aurez une formation qui va durer un mois. Et ensuite, ces jeunes vont servir dans les missions de protection autour de Paris, sur les sites,
et participer aux activités. Et comment ils vont être formés pendant un mois ? Eux, ils vont protéger les sites en tant que militaires, c'est ça ?
Bien sûr.
Comment vous les formez comment ?
Alors, nous avons des centres de formation répartis donc, dans toute la France, avec des cadres qui sont dédiés à cette mission. Donc, un jeune, pendant un mois, suit tout un parcours progressif où nous le faisons évoluer dans le domaine physique, hein, pour devenir un peu plus rustique et endurant, mais également apprendre toutes les nécessités du métier, le maniement des armes, par exemple, quelque chose de très important.
En un mois, ça me paraît tellement
et
court.
En un mois, on est capable d'avoir des jeunes qui sont formés et capables de remplir leur mission.
Et comment vous veillez à la sécurité ? Parce qu'on a énormément parlé des problèmes de sécurité, des éventuels problèmes de sécurité, on espère qu'il n'y en aura pas pour les Jeux Olympiques. Former des jeunes comme ça en un mois au maniement des armes, quelle est la vérification que vous faites en amont pour être sûr que cette personne sera fiable ?
Ce sont des procédures extrêmement strictes qui sont enseignées. Et donc tous nos cadres sont bien sûr formés pour accompagner ces jeunes. Et donc vous avez des séances progressives de maniement de ces armes pour au fur et à mesure apprendre à s'en servir en toute sécurité.
Mais au préalable, vous savez qui vous avez en face de vous, c'est
bien
ça ?
Bien sûr, au préalable. Donc tout le parcours de recrutement est un parcours qui peut durer quelques semaines, quelques mois. Cette rencontre, elle se fait à plusieurs reprises, progressivement. Et les conseillers en recrutement sont là pour évaluer ce jeune. Nous les envoyons dans 2 jours suivre tout un parcours pour son aptitude physique, mais aussi psychologique, pour savoir si ce jeune répondait aux critères, s'il tient la route, s'il sera fiable
pour remplir la mission. Sur les JO, Benoît Derini, je rappelle que vous êtes le directeur général de Manpower France. Beaucoup de postes encore à pourvoir ?
On a un peu plus de 3000 postes
là pour les JO.
Qu'on avait pour les JO. Alors un certain nombre déjà commence à être pourvu.
Il vous en reste combien ? Au moment où
je dirais un peu plus, la moitié, 1500 à 2000.
Hôtellerie, restauration.
Alors, tous les métiers de l'accueil, hôtellerie, restauration, les métiers de la logistique, les métiers d'accompagnement, les métiers du commerce. Évidemment, centrés sur là où vont se situer les Jeux, c'est-à-dire beaucoup sur la région parisienne. Et sur des plages de temps qui sont pas forcément exactement au moment, c'est-à-dire du 20 juillet, je crois, de mémoire, jusqu'au 15 septembre.
Juillet.
Mais ça peut démarrer avant et ça peut continuer après, parce que, par exemple, il y a des gens qui vont monter ou démonter des stands ou du matériel, et ça, forcément, ils vont intervenir bien avant.
Donc, voilà. Vous êtes déjà en train de les recruter, il en manque.
On a déjà fait un certain nombre, beaucoup, il en reste. Notre préoccupation à nous, c'est de faire en sorte que ceux qui nous ont dit oui aujourd'hui seront bien là le 20 juillet.
Vous
quand on
comment
aura
vous les appelez tous les jours
le sujet, c'est un des sujets clés de nos équipes.
Et vous, c'est quoi, vous les appelez tous les jours ?
C'est de leur proposer autre chose entre-temps.
Ah.
Voilà. Donc, leur disant, ben voilà, si, alors, soit vous êtes avec nous au 20 juillet et super, sinon, est-ce que vous avez besoin de quelque chose sur cette période-là pour faire en sorte que le 20 juillet, ou à la date où ils commenceront,
c'est quasiment
ils seront bien disponibles. Donc, c'est des parcours.
C'est des
et
parcours.
On a, nous, un dispositif qui s'appelle MyPass, qui permet en fait d'accompagner dans la durée nos salariés en alternant en fait des périodes des différentes missions, et y compris d'ailleurs des périodes de formation.
Cette notion d'accompagnement, on la voit au sein de l'armée de terre, on la voit au sein de Manpower France. Donc tout ça, c'est un suivi quasiment personnalisé. Vous restez autour de la table de la France Bouge à suivre Cécile Prioul, qui a cofondé Ça ira encore mieux demain. Comment réintégrer son entreprise après de longs mois ou de longues années d'absence. Il y a un accident de la vie, il y a une maladie. On va y répondre juste après une courte pause en musique sur Europe 1. Joseph Kamel et Julien Doré. Beau. À tout de suite.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout.
Si tu savais comme c'est faux. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
C'était Joseph Kamel et Julien Doré sur Europe 1. Beau.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Mais bien sûr qu'elle bouge, cette France sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h ce soir. Jusqu'à 21h, mais à partir de lundi prochain, ça démarre à 21h. Changement d'horaire pour la France bouge. On sera ensemble un peu plus tard dans la soirée. Vous aurez le temps de rentrer, de vous poser et d'écouter les pépites françaises de 21h à 22h sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Benoît Derini, directeur général de Manpower France. Benoît Derini, est-ce que vous avez une cartographie des profils des intérimaires? Est-ce qu'il y en a plus à Paris, région parisienne, dans les endroits un peu plus reculés? Est-ce que vous avez une petite carte comme ça à nous
c'est
proposer?
Alors d'abord, je rappelle, c'est une période souvent dans sa vie professionnelle.
Et ce n'est pas que les intérimaires, hein, vous l'avez dit, vous avez aussi du CDD.
Mais en revanche, on sait que c'est le travail temporaire en France, c'est à peu près entre 2 et 3% de la population active. Donc c'est significatif. Hein. Alors on se parle, en France, vous avez à peu près l'équivalent de 700 à 800 000 équivalents temps plein de salariés qui ont fait le choix du travail temporaire.
Et on peut alterner, certains alternent à CDI, travail temporaire, ça
absolument.
Se transforme parfois en CDI ou les missions avec vous?
Absolument. Alors un tiers des missions, facilement un tiers des missions, en fait, se traduit souvent par une proposition d'embauche dans l'entreprise qui les accueille, soit sur un CDD, soit sur un CDI. Et beaucoup, du coup, acceptent cette proposition. Parfois, d'autres refusent en disant « Non, moi, je préfère rester avec la liberté du travail temporaire. »
La liberté, très important, la liberté. Nous sommes toujours aussi avec le colonel Stanislas Roquerolles, adjoint au pôle recrutement jeunesse de l'armée de terre. Égalité de salariale aussi au niveau homme-femme
totalement,
de l'armée de terre
totalement.
Voilà, donc, et vous recrutez.
Sujet là-dessus, les femmes et les hommes ont les mêmes salaires.
Ils ont les mêmes salaires. Si on a envie, si on est intéressé pour s'engager dans l'armée de terre, parce que vous l'avez dit depuis le début de l'émission, il y a un accompagnement, il y a un suivi du début à la fin. On fait comment ?
Donc, on va sur s'engager.fr, sur internet. Vous avez donc toutes les offres. Et ensuite, un rendez-vous dans un centre d'information et de recrutement de l'armée de terre, un CIRFA, dans lequel vous aurez cette rencontre avec un conseiller en recrutement qui va aider le jeune à discerner entre son aspiration, la réalité de ce qu'il peut faire et trouver avec lui le bon poste qui lui
conviendra. Il y en aura toujours un ?
Il y en aura toujours un.
Ah, voilà. Bah alors allez-y et allez regarder. Et nous sommes aussi avec Cécile Prioul, cofondatrice de Ça ira encore mieux demain.
Europe 1. Le talent de la France bouge.
Cécile Prioul, oui, c'est vous. Vous souriez. Bah oui, c'est vous le talent de ce soir aussi. Vous êtes la fondatrice de Ça ira encore mieux demain. Ça a été créé en mars 2019. Vous êtes originaire de Tours. Vous avez une formation, pas mal de formations. D'abord, électroradiologie. Vous avez travaillé à l'hôpital.
Oui, c'est ça. Ouais. J'étais manipulatrice en électroradiologie. Je ne suis pas restée très très longtemps.
Oui.
Je crois que le côté, l'autorité, la hiérarchie, c'était...
Donc pas l'armée pour vous.
A priori, je n'ai pas eu ces envies-là.
Vous avez travaillé en radiothérapie côté diagnostic, vous vous êtes tournée vers l'industrie pharmaceutique, vous avez travaillé dans un petit labo français.
Oui.
Ça vous a plu, ça ?
Ah oui. Le démarrage, très bien, j'ai tout appris, c'était vraiment super.
Et à premier accident de la vie, vous avez un cancer à l'âge de 28 ans, que vous avez caché à votre patron. Ça a été compliqué. Ouais. Et quand vous êtes revenu dans l'entreprise, il y a eu un rachat, donc vous n'êtes pas trop retrouvé, donc vous êtes parti.
Je suis même pas revenu en fait.
Je
suis pas revenu et j'ai cherché un autre employeur.
Donc vous avez postulé ailleurs, vous avez trouvé un travail dans un groupe pharmaceutique aussi encore.
Ouais.
Et vous avez eu vos trois enfants, vos trois garçons. Vous êtes devenu manager. Vous avez dirigé des équipes et récidive du cancer à l'âge de 40 ans.
Ouais.
Bon, et là, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Vous le dites cette fois-ci au patron ?
Ah oui.
Bon.
Oui, oui, oui.
Donc là, ça va, vous le dites.
À 28 ans, il faut se remettre aussi dans un autre contexte où on ne parlait pas que la maladie, c'était vraiment très tabou. On avait l'impression que la carrière se terminait et les trajectoires professionnelles le montrent aujourd'hui, que les gens qui ont des aléas de santé n'ont pas les mêmes trajectoires professionnelles que les autres. Mais là, à 40 ans, oui, là, je le dis. Et puis, j'ai pas de chance parce que tous les traitements, j'ai eu 11 interventions chirurgicales et rien ne s'est jamais passé comme prévu. Voilà.
Donc 2 ans d'arrêt total de travail. Oui. Quand vous revenez, il y a un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc vous revenez, mais sauf qu'il y a tout le monde est parti.
Oui.
Vous ne connaissez plus personne dans l'entreprise.
Oui, et puis... comme vous le disiez, il y a un avant Covid et puis un après Covid, et je pense qu'on apprend dans l'épreuve, on apprend à mieux se connaître et à faire le point sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et là, j'étais à cette époque-là à me dire non, ça n'a plus trop de sens. Enfin, où j'ai fini l'histoire.
Voilà. Donc, vous retournez sur les bancs de l'école, vous faire une reconversion professionnelle, et là, vous vous dites, je vais monter mon entreprise. Moi, j'ai vécu deux cancers à deux reprises avec des longs arrêts maladie, un retour au travail qui n'a jamais été au rendez-vous, jamais été à la hauteur. Et donc, vous décidez de créer Ça ira encore mieux demain. Vous allez nous dire ce que c'est en une minute. Et puis, on revient à vous tout de suite après. Vous êtes prête ?
Oui.
Allez, c'est à vous.
Donc, c'est déjà une DRH qui a plus de contact avec un salarié qui est absent depuis plus de 3 mois, un manager qui apprend la veille, qui a un retour, et puis un collaborateur qui se pose plein de questions, qui doute, qui se culpabilise par rapport à ses collègues. Donc Ça ira encore mieux demain, c'est une méthode qui permet de réussir le retour au travail après des arrêts maladie, comme on l'a cité, mais également la maternité, la santé mentale, le deuil et la sortie du rôle de l'aidant. Notre spécificité, c'est qu'on accompagne le manager, mais aussi le salarié absent, avec une plateforme digitale d'e-learning qui est jalonnée. Ce parcours, il est jalonné de séances de télécoaching. Et nous avons été évalués pour dire que la méthode, elle est efficace. On a 95% de reprises et 91% des gens qu'on a accompagnés ne connaissent pas de rechute d'arrêt dans l'année qui suit. Et ça, l'absentéisme perlé, c'est ce qui coûte et ce qui désorganise le travail.
Ça désorganise le travail, ça perturbe tout le monde. Vous avez créé, donc merci pour votre pitch, Cécile Prioul, ça ira encore mieux demain. Donc c'est un kit, hein, si j'ai bien compris, des kits employeurs à employés pour permettre cette reprise du travail après une longue absence. Le regard que vous portez sur cette start-up, Benoît Derigny, patron de Manpower France ce soir sur Europe 1.
Je trouve que c'est une très belle initiative parce que, alors du côté, j'allais dire du côté employeur, mais même manager, la difficulté quand on a une absence, c'est de trouver la bonne distance. Comment être présent pour la personne qui est absente, ni trop près, ni trop loin. Et je trouve que cette initiative répond à ça. C'est pas facile non plus du côté du chef d'équipe, par exemple, en disant, bon, ok, je suis soucieux parce que la personne est absente pour des raisons que j'ai compris, peut-être maladie. Comment je peux être là sans être envahissant? Donc je trouve que le fait d'avoir finalement un tiers de confiance, si j'ai bien
voilà,
compris,
voilà, c'est un tiers finalement, c'est boîte.
Est une belle initiative et répond à mon avis à une vraie attente.
Et c'est une méthode qui s'appuie sur un parcours digital, c'est ça, avec des outils, avec des sens de coaching individuel.
Voilà, beaucoup de connaissances. Voilà, on va du droit du travail hein, qui entoure l'absence longue durée, aux étapes psychologiques, à des bonnes pratiques, des astuces. Voilà pour. De façon générale, et ensuite on va avoir des séances vraiment individuelles basées sur la situation. Et on réunit le salarié et le manager quelques jours avant la reprise pour évoquer toutes les conditions pour que l'année se passe bien.
Je trouve ça formidable, je trouve que ça devrait être la mission des RH d'une entreprise. Vous vous substituez un peu au rôle des ressources humaines, non? Je ne sais pas.
Moi, je trouve que c'est
alors. Non, mais en tout cas, ça prouve qu'il y a une faille.
Oui et non, je pense que c'est parce que vous êtes un tiers de confiance, donc vous vous mettez entre les deux.
Comme une médiation.
Petit peu. Donc, ça crée du lien et de la confiance. Enfin, c'est ce que je comprends. Aussi bien d'ailleurs du côté de l'entreprise que du côté du salarié. Et je pense que ce rôle-là, il est très unique. Enfin, ça peut pas être complètement le rôle du manager, ça peut pas être le rôle complètement de la personne concernée. Donc, de mon point de vue, je trouve que ça ne se substitue pas, ça complète.
Non, ça complète. Et bien souvent, on entend des choses que le salarié ne dirait pas.
Bien sûr, parce que vous êtes un tiers de confiance. Colonel Stanislas Rouquayrol, quel regard portez-vous sur « ça ira encore mieux demain » ?
Écoutez, un regard très positif, effectivement. Alors nous, justement, au sein de l'armée de terre, nous avons cet accompagnement autant que possible pour nos militaires.
Parce qu'il y a des armées aussi, hein, et des absences,
aussi des arrêts. Et donc nous avons... l'armée de terre est une vraie deuxième famille. Et donc nous avons le devoir d'accompagner nos hommes et nos femmes qui sont blessés dans leur chair, pour certains, ou psychologiquement. Et donc nous avons créé une cellule d'aide aux blessés, la CABAT, qui est là pour justement les aider à se reconstruire et à les accompagner. Nous avons aussi une cellule de soutien psychologique qui est dédiée à l'accompagnement de nos unités qui rentrent de mission pour les aider justement à avoir ce sas de décompression avant de retourner dans leur famille.
Cécile Prioul, avec Ça ira encore mieux demain, vous avez qui comme client aujourd'hui? C'est des petites entreprises, des PME, ça pourrait être l'armée, c'est qui?
Alors, ça peut être tout le monde parce que ça touche hein, 4%. Les arrêts longs, c'est 4% hein, de la masse salariale. On a des grands groupes et des ETI. Pour l'instant, peu de PME, mais voilà. C'est vrai qu'il faut que ça soit porté par le DRH, hein, vous en parliez. C'est une politique de re-onboarding. Hein,
ça veut
vraiment
dire quoi en français?
Non,
c'est vrai.
Remonter à bord.
Pour les auditeurs d'Europe 1.
Voilà, remonter à bord de l'entreprise. Hein, et puis aujourd'hui, vous en parliez, je crois que les salariés, ils ont besoin d'être considérés. Hein, ils ont donné, ils donnent, et ils ont besoin d'être considérés quand il leur arrive un coup dur. Donc, c'est dans la politique de la QVCT. Je fais le.
À vous trois, il fait bon vivre au travail et ça nous donne envie. Hein, voilà, avec tous ces outils, tout ce que vous mettez en place, c'est déjà la fin de votre France Bouge ce soir. Benoît Derigny, merci. Vous êtes le directeur général de Manpower France. Bon courage pour recruter ce qui vous reste pour les Jeux Olympiques. Hein. Merci à vous. Merci, colonel Stanislas Rouquayrol. Si on a envie de s'engager dans l'armée, rappelez-nous le site.
S'engager.fr.
S'engager.fr. Vous êtes accompagné, vous, votre famille, tout au long de votre vie, mais quoi de mieux? Allez faire un tour. Merci à vous, Cécile Prioul, cofondatrice de Ça ira encore mieux demain pour un bon retour au travail après une longue période d'absence. Restez avec nous sur Europe 1 et merci de votre fidélité. Les chiffres d'audience de la radio ont été publiés jeudi dernier par Médiamétrie et la famille Europe 1 s'agrandit encore et nous sommes fiers et heureux de souhaiter la bienvenue aux 223 000 nouveaux auditeurs qui écoutent Europe 1 tous les jours. vous savez que c'est la meilleure progression des radios généralistes. Donc merci à toutes et tous pour votre fidélité et votre confiance. Dans un instant, c'est le journal de 21h présenté par Maël Hassani. Et tout de suite après, la musique avec Joe Hume. Bonsoir Joe.
Bonsoir Elisabeth.
Quel est le programme ce soir? On va écouter quoi?
Alors ce soir, on va écouter Étienne Dao. Non, ce n'est pas son anniversaire, mais il est un petit peu dans l'actualité, donc on ne va pas se priver. Il y aura également Roy Orbison. On écoutera le chanteur belge Arnaud. Et puis dans l'épisode de ce soir, de quelle histoire? Je vais vous raconter l'histoire d'un groupe de soul psychédélique assez méconnu des années 70 et pourtant signé sur la Motown, The Undisputed Truth. Vous m'en direz les nouvelles.
Merci Joe Hume. Excellente soirée sur Europe 1.
Bonne soirée.
C'était La France Bouge avec General IPME Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables. Candidatez sur generali.fr/PME durable. Generali, assurez vos vies.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, de